Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse. Au menu de cette émission, situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Premier ministre Matata Ponyo ne pense pas qu'une solution régionale puisse résoudre le problème d'agression que connaît la RDC. Le gouvernement congolais interdit l'importation des véhicules d'occasion ayant été mis en circulation avant l'année 2002. Pour qu'on soit journaliste et participe à ce débat, il s'agit de Joachim Diana, il est éditeur du journal de la Colombe. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir Guy Maté.
Innocent Kabukala, il est coordonnateur de Global Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent Kabukala.
Bonsoir Guy Maté.
Et Dona Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu, et secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu. Bonsoir Dona Moussema. Une solution régionale dans la crise de l'Est est hypothétique selon le Premier ministre Matata Ponyo. Interdiction d'importer les véhicules d'occasion de plus de 10 ans d'existence. Pour savoir comment la presse a traité ces informations, écoutons cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. La tournée européenne du Premier ministre Augustin Matata Ponyo fait la une de la presse locale parue cette semaine à Kinshasa. Le Potentiel affirme que la solution à la crise qui sévit dans l'est du territoire national ne pourrait pas sortir de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et le Premier ministre Matata Ponyo l'a compris, fait remarquer le journal. Aussi juge-t-il hypothétique toutes les initiatives prises jusqu'à ce jour dans ce par une organisation sous-régionale, en l'occurrence la CIRGL ou Caracol, des pyromanes qui se font passer pour des sapeurs-pompiers renchérit le potentiel. Toujours dans sa tournée européenne, Forum des As a indiqué que devant plus de 200 investisseurs, hommes d'affaires actifs en RDC et investisseurs potentiels, le Premier ministre Matata Ponyo a vendu les performances économiques congolaises, notamment la croissance soutenue depuis une décennie, la stabilité du cadre macroéconomique et les perspectives positives du géant RDC qui se lève. Il faut aussi noter que l'actualité cette semaine a été marquée par la décision du gouvernement congolais interdisant l'importation des véhicules d'occasion ayant été mis en circulation avant l'année 2002. Pour le journal de Kin et Radio Okapi.net, dans son décret du 2 octobre dernier, le Premier ministre Matata Ponyo explique cette décision par la nécessité de limiter l'impact nuisible des véhicules qui polluent l'environnement. Par conséquent, tout véhicule d'occasion ne remplissant pas les conditions exigées par ce présent décret d'ici le 2 décembre sera soit réexporté, soit détruit aux frais du transitaire ou du transporteur, rapportent ces deux médias. Sur le plan économique, le phare indique que la République démocratique du Congo a encore du chemin à parcourir en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Ce journal, qui cite le rapport Doing Business de la Banque mondiale pour l'édition 2012, rendu public le 23 octobre dernier, classe la RDC à la 181e position sur 185 pays. Une position négative parce que le pays a régressé par rapport à la position occupée l'année passée. L'avenir justifie cette contre-performance par la non-formalisation de l'adhésion à l'OADA.
Merci Samuel Kachak. Un commentaire Joachim Diana. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi les derniers développements dans le procès Tchebea. Et comme vous le savez, la haute cour militaire a rejeté la demande des parties civiles, celle de faire comparaître le général John Numbi comme prévenu et le journaliste belge Thierry Michel comme témoin.
Oui, tout à fait. Le contraire m'aurait étonné. Que j'aurais constaté que le droit est dit à géométrie variable, c'est-à-dire que selon qu'il s'agit de tel cas ou tel autre cas, selon qu'il y ait pression, qu'il y ait ceci, on invente un principe de droit. Le général John Numbi a comparu en première instance comme renseignant, et ce serait étonnant qu'au cours du même procès, en deuxième instance, dans un appel, qu'il devienne coupable et qu'il comparaisse. Donc, ce mécanisme, cette transhumance-là, beaucoup de juristes ne trouvent pas comment elle pouvait se faire. Peut-être qu'on aurait pu intenter un nouveau procès. On apporte des éléments devant un autre procès, mais pas celui-là. C'est impossible que cela se fasse.
Innocent Kabukala, coordonnateur de Global Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Les contraires, selon Joachim Diana, les contraires auraient étonné. C'est tout à fait logique que la haute cour militaire ne puisse pas autoriser que le général John Numbi ainsi que les journalistes belges puissent comparaître.
Je ne partage pas ce point de vue. Comment le contraire aurait étonné? Parce que les mécanismes juridiques ne sont toujours faits de telle sorte qu'il y ait à certains endroits, à certains moments, de ce qu'on appelle jurisprudence, et donc cela peut arriver. Mais comment on peut créer, est-ce qu'au cours de ce même de ce même procès pour que, qu'on y arrive, je crois que c'est vrai. C'est là que j'essaie de le rejoindre lorsqu'il parle de faire un autre procès et que au cours de ce procès-là, on aurait donné des éléments. Mais ici, l'allure de ce procès-là, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui ont mérité d'être sur lesquels on devait revenir. Et je pense que c'est des droits pour la partie civile de demander c'est l'état des choses, dans la mesure où déjà au départ, lorsque le général lui-même paraissait comme renseignant, il y avait déjà des protestations et donc ça a été quelque peu imposé qu'il paraisse comme tel.
Dona Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu, et secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu, il faut reconnaître que la décision de la haute cour militaire était très attendue par toutes les parties.
Oui, effectivement, la décision était très attendue. D'autant plus qu'au vu des enjeux, au vu même de la complexité du dossier, il fallait qu'il y ait d'autres éléments. Et à ma connaissance, j'ai senti qu'il y a déjà des éléments additionnels, des éléments qui permettent d'aller de l'avant dans l'aboutissement pour ce procès. Et je pense que c'est devenu un peu comme un procès des États, parce que ça implique maintenant des acteurs au niveau national, des acteurs au niveau même international. Et je pense qu'il faudrait encore laisser assez de temps au temps pour qu'on puisse aller vraiment vers les résultats attendus par rapport à ce procès dont tout le monde parle et qui est devenu un procès vraiment très très délicat.
Dona Moussema, je rappelle que vous évoluez à Bukavu, au sud de Kivu, mais actuellement vous vous trouvez à Kinshasa. Vous êtes au courant de ce qui se passe à Bukavu? Quelle est l'actualité qui domine? On apprend que le docteur Mukwege, célèbre personnalité dévouée en faveur des femmes victimes des violences sexuelles du Kivu, a été victime d'agression à sa résidence la nuit d'hier à ce vendredi par un groupe d'hommes armés.
Merci d'abord de m'avoir invité, parce que souvent j'interviens quand je suis au téléphone. Aujourd'hui je suis en direct, c'est un grand plaisir. Je dois vous dire que l'émission est très bien suivie et bien cotée à Bukavu, où nous sommes suivis 5/5. Donc par rapport à ce qui se passe en province du Sud Kivu, notamment dans la ville de Bukavu, c'est une semaine sanglante, je dirais, parce que on vient d'enregistrer 3 assassinats, dont 2 par balle. On a retrouvé aussi cette semaine à Bukavu un corps sans vie. Donc, c'est pour vous montrer que la semaine, elle est macabre à Bukavu, notamment avec ce qui s'est passé au domicile du docteur Mukwege. On n'a pas assez d'éléments, mais nous apprenons que sa sentinelle a été tuée par balle. On ne sait pas juste qu'elle a les mobiles, mais c'est autant d'informations que nous avons depuis Bukavu et qui sont arrivées ici à chaud comme ça. On ne sait pas beaucoup donner les détails pour l'instant, mais on déplore et peut-être on présente les condoléances à toutes ces familles qui ont été victimes de ces atrocités barbares dans la ville de Bukavu.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Premier ministre Matata Ponyo ne pense pas qu'une solution régionale puisse résoudre le problème d'agression que connaît la RDC. Augustin Matata Ponyo a fait cette déclaration au cours d'un point de presse tenu mardi dernier à Bruxelles. Selon lui, cette solution est presque hypothétique à cause de l'implication de certains acteurs de la sous-région dans la crise qui sévit dans le Kivu. La solution, selon le Premier ministre, se trouverait dans le renforcement d'une force onusienne. Ces propos ont été recueillis par Yolande Nimi.
L'on parle de la solution régionale, mais quel peut être l'apport d'une solution régionale lorsque, dans cette même sous-région, ceux qui sont censés apporter la solution sont impliqués? C'est pour cela que la RDC pense qu'il faut imaginer la solution d'une MONUSCO, qui est en fait une force des Nations Unies, renforcée, remodelée, redéployée avec des capacités pour pouvoir établir l'intrusion des forces étrangères pour déstabiliser la RDC. Nous avons eu une oreille très attentive quant à l'appui de l'Europe, quant à l'appui de la Belgique pour une solution rapide à cette question.
Joachim Diana, quelle analyse vous faites de cette déclaration du Premier ministre? Comment vous comprenez cela? Est-ce que le gouvernement a rejeté les schémas de la CIRGL?
Oui, on ne sait pas qu'est-ce que... Je ne sais pas très bien ce que le Premier ministre veut dire par que la CIRGL ne peut pas apporter la solution. Lorsqu'on sait que la CIRGL, c'est une communauté à laquelle nous appartenons, et que la CIRGL a eu comme par hasard, comme président en exercice, Yoweri Museveni, qui y a présidé les réunions sur le Congo, ce n'est pas...
Et qui continue à le présider.
Qui continue à le présider, non pas parce que c'est le président de l'Ouganda, mais c'est parce qu'il est président en exercice de la CIRGL. Et que déjà en décembre, ici, comme l'a annoncé le ministre de la Communication, des médias, son mandat sera terminé. Et ça sera un autre pays, si ce n'est pas la RTC, c'est peut-être un autre pays qui devra présider au destiné de la CIRGL. Ce qui veut dire que la situation... Donc, le premier ministre peut avoir raison du moment où on voudrait que ce soit les forces de la CIRGL qui viennent constituer la fameuse force neutre. Mais lorsque la CIRGL peut décider que, comme le veut le gouvernement congolais, que ce soit plutôt le mandat de la MONUSCO qui soit transformé, la solution peut venir de la CIRGL, mais que la CIRGL elle-même ne soit pas une solution. Mais elle peut apporter la solution. Là, je pense qu'il y a lieu de nuancer cette situation.
Innocent Kabukala, le Premier ministre se questionne sur l'apport d'une solution régionale lorsque dans cette sous-région, ceux qui sont censés apporter la solution sont eux-mêmes impliqués dans cette crise. N'a-t-il pas raison de se poser une telle question?
Le Premier ministre se pose cette question, il a raison, effectivement. Mais le problème, c'est situé à quel niveau? C'est que sa raison m'inquiète. En tant que tel, gouvernement, parce que si lui déclare ça, alors quelles deviennent les populations de toutes ces parties et de l'ensemble de notre pays? Parce que le gouvernement, parmi ses missions, c'est aussi justement de sécuriser ce pays. Alors, mais si il le dit, donc ça veut dire que la RDC, comme telle, est incapable de sécuriser ses populations. Mais à partir de cet instant, lorsqu'il demande à ce que la MONUSCO soit
renforcée
pour qu'on en arrive là, c'est en fait une démission dans cette mesure. C'est le constat que moi je fais et ça m'inquiète beaucoup. Il parle de certains acteurs. Bien sûr, il veut parler du Rwanda, sans le citer. Il veut parler de l'Ouganda, qui sont connus, qu'on accuse, qui sont en train d'agresser ou d'apporter leur soutien aux différentes factions de rébellion que nous avons dans cette partie. Je rappelle, peut-être que Diana, je crois qu'il a toujours des bonnes informations, peut-être qu'il était un peu distrait, il n'avait pas suivi ce qu'avait dit le ministre de la Communication lors de son dernier point de presse. Et après Museveni, qui justement préside actuellement, ce sera le président Kabila. Donc, ça veut dire que quelque part, on ne devait pas dire autrement les choses que comme il l'a fait. Mais l'inquiétude reste et demeure, c'est que le gouvernement est incapable de sécuriser cette population et je constate cette démission. Il faut trouver d'autres solutions. C'est pour cela que je rejoins ceux des Congolais, comme on en a entendu, notamment parmi des factions rebelles, même si c'est vrai qu'on ne peut pas à tout moment dialoguer, mais quand on se sent coincé, c'est tout ce qu'il faut faire. Et donc, je rejoins ces gens qui estiment qu'il faut arriver à un dialogue, parce que lequel dialogue pourra effectivement nous permettre de trouver du répondant par rapport au problème que nous avons dans cette partie de la République. Et ceci est très très important, et donc, je ne vois pas une autre formule. Parce que même s'il faut renforcer cette MONUSCO-là, est-ce qu'on a résolu le problème interne? Il y a quand même un problème réel dans notre pays et ce problème-là mérite de trouver une solution. Et pour moi, la solution passe par le dialogue et je crois que je ne serai pas très contesté si je dis que le tout est parti, effectivement, de ces élections qui ont été décriées dans notre pays.
Dona Moussema, parlons de cette position du Premier ministre Matata Mponou. Il faut rappeler que la société civile du Nord Kivu avait, au mois de juillet, rejeté le schéma de la CIRGL après avoir dénoncé la présence des militaires ougandais vers Rutshuru au Nord Kivu. Cependant, le gouvernement avait semblé ne pas tenir compte de cette dénonciation de la société civile. Il s'est inscrit en fait davantage dans les schémas CIRGL. Et c'est au lendemain de la publication dans la presse de certains extraits du rapport rapport des experts des Nations Unies qui indexe l'Ouganda et qui sera donc le rapport qui sera officiellement publié au mois de novembre prochain. C'est au lendemain donc de la publication dans la presse de ces extraits, de ces rapports, que le gouvernement semble afficher ce qu'on peut qualifier de volte-face. Y aurait-il un lien entre ces rapports et la position actuelle du Premier ministre Matata Ponu?
Je pense que le gouvernement, avec ce point de vue du Premier ministre Matata Ponu, le gouvernement est resté carrément dans sa logique. Quand vous suivez même les raisonnements du Premier ministre Matata Ponu, il pense que la solution doit venir de la force onusienne, ça doit venir d'autres personnes, d'autres acteurs politiques à part le gouvernement lui-même. Et c'est à ce niveau-là justement que moi je pose aussi le point de vue de mon confrère Innocent qui pense qu'il s'agit totalement d'une démission. Parce que...
Mais le Premier ministre dit la solution c'est trouverait. C'est trouverait. Ouais. Donc il a mis au conditionnel.
Oui, 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 d'accord, mais pourquoi il ne veut pas parler du rôle essentiel que doit jouer son gouvernement? Il est le Premier ministre. C'est lui, notamment avec les membres de son gouvernement, qui doivent juguler ce problème. J'ai toujours pensé que les forces onusiennes peuvent venir, comme vous l'avez dit souvent ici à Radio Okapi, en appui. On appuie quelque chose qui existe déjà. Alors, s'il n'y a rien, les forces onusiennes et puis la CIPGL doivent appuyer comment? Il faut qu'il y ait déjà des mécanismes qui sont mis en place, qu'on peut aider. Donc, je pense que les forces onusiennes peuvent venir en appui de quelque chose. Il faut qu'il y ait ce quelque chose, Et là, ça dépend totalement du gouvernement.
Diana, comment vous expliquez l'attitude du gouvernement congolais? Parce que au mois de juillet, je l'ai dit ici, la société civile du Nord Kivu avait rejeté le schéma CIRGL, mais le gouvernement ne l'avait pas suivi. Et c'est seulement lorsque les experts des Nations Unies publient les rapports où on indexe l'Ouganda que le gouvernement réagit dans le sens de la société civile du Nord Kivu. Comment on peut expliquer cette attitude-là? On a l'impression que dans ces pays, on a tendance à se fier aux experts étrangers et au détriment des experts nationaux.
Non, mais tout à fait, c'est la preuve qu'on a en face un gouvernement responsable. Ce n'est pas un gouvernement qui agit par coup de tête. Un gouvernement, ce n'est pas une ONG. Un gouvernement, ce n'est pas une rédaction pour se fier au sensationnel. Le gouvernement décide avec les éléments vérifiés, et tant même nous, dans les rédactions, pour vérifier les informations. Donc, je ne peux pas comprendre que les amis disent ici que lorsque le Premier ministre parle de renforcer la MONUSCO, c'est que ça serait une démission. C'est non. De même, lorsque on dit que pour qu'il y ait les forces de l'ONU, il faut qu'il y ait d'abord quelque chose. Ce qui veut dire que chez nous, il y avait un vide. Non, du tout. Mais c'est parce qu'on peut remonter jusque même à l'arrivée même de la MONUC, qui s'est mis aujourd'hui à MONUSCO. Et le président Thabo Mbeki l'a plus d'une fois démontré aux Congolais. Je pense que cette leçon, nous devons la retenir, nous aussi Congolais, que le Congo est une partie du monde. Quand il y a un problème dans une partie du monde, que tout le monde entier se sente responsable et que le monde entier trouve des solutions, parfois même les impose à la République démocratique du Congo. De même, on nous avait imposé la MONUC parce qu'il fallait que les Zimbabwéens partent, il fallait que...
On n'a pas imposé la MONUC, c'était sur demande du gouvernement congolais.
Non. Quel était le gouvernement congolais à l'époque? Le gouvernement, c'était l'administration, parce que tout le monde le reconnaissait comme ça, l'administration du RCD, l'administration de ceci, cela, et c'est la communauté internationale qui a demandé que toutes les forces des Zimbabwe qui soutiennent les différentes composantes ici partent et qu'on envoie une force de l'ONU. Et le gouvernement ne devrait que demander, de même avec la CIRGL, ce n'est pas le gouvernement qui a demandé que la CIRGL, mais c'est l'OIA. Lui a plutôt qui a décidé que la CIRGL s'occupe de la France et la CIRGL s'est opposée. La RDC n'a jamais fait la demande à la CIRGL.
Joachim Diana, une certaine opinion pense que les volets internes doivent être pris en compte, comme l'a proposé Innocent Kabukala. C'est pourquoi même l'opposition politique au Congo pense qu'en plus du renforcement de la MONUSCO, il faut impérativement un dialogue inclusif entre la classe politique et toutes les forces vives de la nation, sans pour autant aboutir à un partage du pouvoir.
Non, non, il n'y a même pas un problème de partage du pouvoir.
Mais un dialogue quand même.
Je pense que nous devons être sérieux. Si nous voulons être un pays normal, nous devons nous engager dans des voies normales jusqu'au bout.
Quelles sont ces voies normales?
Je suis en train de parler. Lorsque nous sommes allés à San City, pourquoi? Parce qu'on voulait créer un nouvel ordre politique. Demander aujourd'hui un dialogue, c'est toujours chercher une solution extra-constitutionnelle. Dans quelle constitution il est prévu que, en cas de ceci, de cela, on doit faire un dialogue en dehors? Mais ce qui se fait au Parlement, c'est quoi? Ce qui se fait au Parlement, c'est quoi? Il y a l'opposition. Donc, je pense que nous devons devenir un pays. Dans quel pays en France Ils ont la clé du non, sortant des institutions, créer un dialogue. Aux États-Unis, ailleurs, c'est ça que j'appelle des pays normaux. Un pays normal ne doit pas tout le temps, quand vous allez aux élections, vous le perdez, vous dites non, faisons un dialogue. Mais non, si dans un pays, il y a des problèmes, il y a des gens qui ont gagné les élections, responsabilisez-les jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur mandat. Et à la fin du mandat, on les juge pour ça. Vous ne devez pas à tout moment, vous qui êtes de l'extérieur, vous y mixez pour parce qu'il doit y avoir dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui?
Et en ce cas-là, Joachim Viana semble ne pas voir l'opportunité d'un dialogue aujourd'hui.
Bon, bien entendu, c'est son opinion, mais je voudrais d'abord revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais nous avons bien des éléments. Il est vrai que la République démocratique du Congo appartient, est une partie du monde. Mais on n'a pas dit, on n'enlève pas à la RDC sa souveraineté, parce que en fait, ici, il s'agit d'un pays qui existe et qui a de responsabilités vis-à-vis des populations. Donc, par conséquent, on ne peut pas dire que il faudrait que, pour une raison ou une autre, que des solutions viennent de l'extérieur. C'est pour cela qu'on dit le gouvernement congolais n'étant pas à mesure de sécuriser sa population, et donc occasionne un vide que nous constatons. Et ce vide-là, il doit être remplacé par quelque chose qui devrait exister, et à partir de cet instant-là, effectivement, comme disait mon confrère tout à l'heure, on viendrait en appui pour pouvoir réussir une mission donnée, notamment la sécurisation comme il a été question. Mais nous avons tous suivi la fin des travaux du dialogue intercongolais. Que ce soit Ketumi Lemassiré, que ce soit Moussa Fagnès, lors des discours de clôture, personne n'a jamais dit que le Congo est un pays à part. Les solutions, les problèmes du Congo étaient d'abord une question congolo-congolaise. C'était aux Congolais d'abord de s'occuper de leur pays et que eux ne font qu'accompagner. C'est pour cela que quand on a parlé du CIAT, le CIAT c'était quoi? C'était un comité justement d'accompagnement qui n'avait pas, au sens propre du terme, qui ne devait pas avoir de l'influence, même si il y a des choses qu'on peut redire là-dedans. Nous restons sur le principe. Mais là j'en viens. Le dialogue commence avec sa constitutionnelle. Mais lorsque la constitution demande, donne des obligations au gouvernement, notamment la sécurité, la justice et tout le reste, et que cela n'est pas une réalité dans un pays, mais on est en droit de s'arrêter et de se regarder en face pour pouvoir nous poser des questions. Mais pourquoi cela n'existe-t-il pas? Ça existe. Donc on ne peut pas dire que le dialogue
est extra-constitutionnel. Pourtant, Diana pense que tout marche tout naturellement, et donc il n'y a pas une situation qui pourrait pousser certaines personnes à dire que aujourd'hui le dialogue est incontournable.
Moi je ne suis pas avec.
S'il y a,
nous sommes dans le même pays. Nous sommes dans le même pays. Nous regardons les faits et nous sommes journalistes.
Les faits c'est quoi?
C'est qui nous intéresse? Les faits c'est notamment la société de guerre à l'Est. Les faits, c'est l'insécurité, c'est les injustices, c'est les contestations. Mmh. Ces faits nécessitent que l'on puisse interroger la Constitution. Et quand on interroge la Constitution, naît le principe du dialogue. Et donc, alors, c'est dans le problème de contredire, sous ce point de vue. Donc, le pays va mal, il faut le reconnaître. Il nous appartient, à nous tous, ce pays. On a besoin de le voir aller de l'avant. Et donc, il ne faut pas esquiver un dialogue. Le problème de partage de responsabilité, c'est vrai, on dénonce. Mais le plus important là-dedans, c'est la possibilité de se regarder en face, dans les yeux, pour parler du Congo et trouver des vraies solutions aux problèmes. Tenir compte de ces contestations. Et je pense que M. Diana, heureusement, il est journaliste. Bon, donc s'il avait été dans un cabinet ministériel, alors j'allais dire qu'il ferait partie de ces conseils que nous ne voulons pas voir aux côtés des décideurs.
Merci. Dona Moussema, tout marche tout naturellement, selon Joachim Diana. Donc il n'y a pas lieu de parler d'un éventuel dialogue actuellement.
Moi, je pense que nous sommes des journalistes et nous devons dire la vérité au peuple.
Quelle est cette vérité?
La vérité est que nous avons une situation d'insécurité, de guerre à l'est du pays. Ok? D'où vient cette guerre? Il semble que c'est une guerre interne au Congo, par les Congolais. Alors, qui doit trouver juguler cette guerre-là? Qui doit trouver solution à cette guerre-là? C'est notamment, d'abord, je le crois, le gouvernement congolais qui doit mettre les mécanismes en place pour avoir une issue favorable par rapport à cette guerre. Si c'est par le dialogue, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait problème. Même un dialogue, il est le bienvenu parce qu'il a été prouvé qu'il faut toujours dialoguer. Et c'est en dialoguant qu'on peut écouter, qu'on peut poser des questions, qu'on peut savoir les vrais problèmes. Qu'est-ce qui se passe exactement avec le M23 pour parler de cette guerre? Est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'ils ont un cahier de charges, par exemple? Je pense qu'il faut les écouter. Il faut trouver un mécanisme de solution. Et ça, ça passe par le gouvernement. Au lieu de commencer à parler de forces onusiennes, ça vient toujours en appui. Mais c'est d'abord le gouvernement qui doit faire quelque chose d'essentiel.
Joachim Diana, ça c'est les volets internes. Mais il y a des experts qui pensent qu'il faut aussi initier un dialogue sincère avec Rwanda et l'Ouganda. Votre point de vue.
Oui, j'aimerais dire ceci, que jamais je n'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes à l'Est, il y en a des problèmes à l'Ouest, il y a des problèmes à Kinshasa, nous avons le Kuluna par exemple, tout ça, c'est l'insécurité, ce sont des problèmes. Nous avons des problèmes, c'est vrai. Mais je dis ceci, dans un pays normal, lorsqu'il y a des problèmes, tout le monde, et l'opposition, et tout le monde demande à ceux qui ont reçu mandat de résoudre ce problème, ce gouvernement de résoudre le problème. Aujourd'hui, par exemple, on va appeler quelqu'un qui n'a pas reçu mandat du peuple pour venir dialoguer au nom de quoi? C'est ça un pays normal, quand même. Nous ne devons pas croire que ce pays doit toujours rester dans la transition toute sa vie. Nous n'en sortirons pas.
Et donc, à votre avis, il est interdit de dialoguer avec ceux qui n'ont pas été élus, ceux qui sont dans l'opposition? Il est interdit.
D'où leur viendra le mandat? On va les évaluer, on va les choisir, ceux qui doivent dialoguer sur base de quoi? Lorsqu'on me demande aujourd'hui qu'il faut dialoguer, par exemple, avec le M23, je pense que nous devons aller normalement. Le chef de l'État a dit que nous allons résoudre ce problème sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique. Lorsqu'on parle d'un seul volet, le volet diplomatique, les gens pensent que non, on a tout abandonné. Qui a dit, est-ce que là, il n'y a plus aucun soldat au Sud-Kivu? Celui qui vient du Sud-Kivu nous dit qu'il n'y a plus aucun militaire au front, il n'y a plus rien.
Oui,
donc, le Congo a
été arrêté. Joachim Diana, lorsque Innocent Kabukala, Dona Moussema disent que nous avons un gouvernement qui est censé trouver une solution à cette guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Mais, dans les faits, on n'a pas encore trouvé de solution. Est-ce qu'ils ne peuvent pas proposer qu'on puisse initier un dialogue entre les acteurs politiques et la société civile au Congo?
Écoutez, je pense que ça, c'est de la mauvaise foi et c'est aussi une façon de relayer le message de ceux qui nous agressent.
Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il faut aussi dialoguer avec le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais?
Guy Maté, je pense aussi que c'est de la mauvaise foi. Est-ce que nous n'avons jamais dialogué avec le Rwanda? On nous accuse ici même, ici à Kinshasa, on accuse même le gouvernement congolais d'être complice du Rwanda. On a eu les forces rwandaises pour venir résoudre le problème du Rwanda ici. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a un ambassadeur Merci. Rwandais ici. Est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas de mécanisme de coopération avec le Rwanda pour Merci. Qu'aujourd'hui on nous demande de créer le mécanisme de coopération avec le Rwanda? Il y a des gens qui veulent à tout moment créer ces situations pour s'en servir. On a fait tous les dialogues avec le CNDP et ceci, cela. Mais maintenant, on voudrait continuer. On va arrêter comment?
Merci. Innocent Kabukala, parlons du renforcement de la MONUSCO que le Premier ministre a évoqué. Il est de notoriété publique que ce sont les forces des Nations Unies qui avaient mis fin au chaos qui avait caractérisé la période allant des 60 à 64 avec les différentes sécessions et rébellions. Mais est-ce que le contexte est le même aujourd'hui? À l'époque, on parlait du bipolarisme Est et Ouest, ce qui n'est pas démise aujourd'hui. Parce que l'Union soviétique n'existe plus. Est-ce que vous pensez que si on activait les forces des Nations Unies, cela pourrait nous aider à trouver une solution adéquate et durable à ces problèmes qui se posent dans l'Est de la RDC?
Je ne pense pas. Vraiment, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La question part de l'intérieur de notre pays. La vraie solution part de là, c'est la sincérité. Le fait que des gens, au niveau interne, ne peuvent même pas reconnaître le tort qu'ils ont et les misères qu'ils font sur leur propre population, je crois que on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Les forces extérieures ne peuvent venir qu'en appui parce que nous avons fait tel pas, voici qu'il nous manque un élément, deux éléments, trois éléments, quelque chose.
C'est ça,
dont on a besoin. Et à ce moment-là seulement, on peut venir en appui. Donc, moi, je ne pense pas que la solution viendrait d'une imposition de l'extérieur. Je ne crois pas. Je ne pense pas vraiment à ce point de vue. Mais permettez quand même de dire un petit mot. Il n'y a aucune mauvaise foi lorsque l'on demande qu'il y ait un dialogue, lorsque l'on demande qu'on puisse construire notre pays. Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Il n'y a même pas un relais par rapport. Parce que lui parle de la création. Mais jusque-là, en tout cas, ce n'est pas très alimenté. Hein. Au niveau officiel, on ne parle pas tellement de l'agression. On parle d'une rébellion, laquelle rébellion est appuyée. On ne voit pas tellement. C'est pas la même chose lorsque nous étions, je pense, en 97, lorsqu'on parlait de l'agression du Rwanda et que c'était très visible. Vous comprenez? Mais ici, on parle de l'appui
C'est pour cela que c'est à des niveaux qu'on n'arrive même pas à désigner le Rwanda.
Merci.
Voyez-vous. Hein, donc aujourd'hui, avec toute l'évolution que...
Mais le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, il est dit, il évoque le Rwanda.
Ben, il évoque, mais c'est assez timide, hein, parce qu'il n'y a que lui, lorsqu'on a, on s'est attaqué, on a dit, on s'est pas attaqué, on a dit que le président de la République, on lui faisait la remarque, lui-même ne parlait pas assez souvent de cette agression du Rwanda. C'est comme ça que lui est venu pour dire qu'il le dit assez souvent et que cela suffisait. Mais je pense que devant le peuple, c'est lui qui avait prêté serment, il s'appelle le président de la République, et c'est lui le garant de la nation. Lorsqu'on parle de l'intangibilité des frontières, en tout cas, sa parole est en quelque sorte c'est une parole d'honneur, et donc elle pèse, hein, pour même donner la confiance dans cette population, parce que c'est cette population qui a confiance d'abord en lui et non pas... je pense qu'on peut, trouver un autre porte-parole du gouvernement, mais le chef de l'État, lui, il a un mandat.
Merci. Donald Moussema, est-ce que vous pensez que la majorité parle le même langage ou le gouvernement parle le même langage au sujet de cette question de l'Est?
Bon, je pense qu'à un niveau, nous avons dit qu'il y avait irresponsabilité. Et justement, l'irresponsabilité se fait remarquer parce que tout le monde a une vision différente par rapport à la question. Et on sent les gouvernements qui se contredisent. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas le temps de bien se concentrer sur le vrai problème, sur donc la question de la sécurité à l'est du pays. Je pense que on a même tantôt l'a évoqué de la MONUSCO qu'il faut toujours encore renforcer. Bon, je ne sais pas. Ça fait plus de 10 ans quand même que la MONUSCO est là au Congo, et l'a beaucoup fait pour les peuples congolais. Est-ce qu'il faut qu'il soit éternel? C'est autant de questions que nous nous sommes toujours posées. Je pense qu'il faudrait que petit à petit, les Congolais, le gouvernement congolais, comprennent que la MONUSCO, toutes les institutions régionales sont là-bas en appui pour un développement du peuple congolais, un développement intégral. Mais au stade actuel, on a cette impression qu'on voudrait être parrainé éternellement par la MONUSCO, qui a déjà beaucoup fait d'ailleurs, on doit le reconnaître.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, le gouvernement congolais interdit l'importation des véhicules d'occasion ayant été mis en circulation avant l'année 2002. Dans son décret signé le 2 octobre dernier, le Premier ministre Matata Ponyo explique cette décision par la nécessité de limiter l'impact nuisible des véhicules qui polluent l'environnement. Par conséquent, tout véhicule d'occasion qui ne remplit pas les conditions exigées dans ce présent décret d'ici le 2 décembre sera soit réexporté, soit détruit aux frais du transitaire ou du transporteur. Les précisions avec Samuel Kachak.
Ces véhicules, avant leur importation en RDC, doivent remplir quelques conditions. Par exemple, présenter un état technique satisfaisant, attesté par un centre de contrôle du pays de provenance. Ils doivent avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 10 ans pour les véhicules à usage personnel comme les voitures et bus de moins de 10 places. Ils doivent avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 7 ans pour les véhicules utilitaires autres que les poids lourds, c'est-à-dire les bus de 10 places et les camionnettes. Ce décret concerne aussi les véhicules poids lourds qui doivent avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 10 ans. Selon ce décret du Premier ministre Matata Ponyo, tout importateur des véhicules automobiles d'occasion est tenu de présenter au cordon douanier les originaux des pièces justificatives exigées par l'autorité publique. Il s'agit du récépissé d'immatriculation ou la carte grise ou, à défaut, la copie légale de celle-ci, l'acte de cession légalisé ou l'attestation légalisée du contrôle technique du dit véhicule. En cas de contestation ou de doute sur l'âge réel ou l'état technique du véhicule d'occasion, un expert automobile agréé par le ministre des Transports et Voies de Communication est commis par l'administration des douanes aux fins d'évaluation et ce, aux frais de l'importateur.
Merci Samuel Kachak. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision, c'est une télévision qui est menée depuis la ville de Kinshasa. Comment vous analysez ces décrets signés par le Premier ministre?
Dans la forme, peut-être aussi dans le fond, la mesure est bonne, en termes d'intention. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quand ce décret arrive, sa pratique sur terrain, elle se heurte à des réalités. Je suis d'accord avec un contrôle technique, ce qui est tout à fait normal, on peut le faire. Mais l'âge du véhicule, je crois qu'il y a quand même une difficulté, parce qu'on risque de tomber dans une généralisation à outrance. Un véhicule peut, par rapport à la période qui a été mentionnée ici, il peut venir avant, on est mis en circulation avant cette période qui est citée dans ce décret, mais le véhicule est en bon état. Pourquoi? Parce qu'il a été bien gardé. Vous comprenez? Alors, mais si il faut appliquer ce décret tel quel, ça veut dire que ce monsieur-là ne doit pas utiliser ce véhicule-là, il ne peut pas racheter ce véhicule-là, il ne peut pas l'importer ici. Il se pose un problème. Alors, et surtout quand on vise, notamment les transporteurs privés. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que l'État lui-même a proposé? C'est encore un problème. Donc je crois que la mesure est bonne, mais il faut éviter la démesure. Il faut peut-être partir sur des bases qui peuvent être raisonnables. Pour cet instant, je crois que cette mesure peut vraiment se heurter à beaucoup de réalités qui ne pourront peut-être pas faciliter la tâche dans les relations entre justement ces transporteurs privés pour la plupart de cas, parce que jusque-là, l'État lui-même ne nous a pas proposé quelque chose de consistant qui viendrait résoudre une question, notamment lorsqu'il s'agit de transport. Mais plutôt, j'aurais souhaité que l'accent soit mis beaucoup plus sur le conducteur. Parce que ici, lorsqu'on parle d'esprit de mort, notamment, parce que dans une certaine mesure, on vise ces types de véhicules. Mais le véhicule lui-même, en soi, n'a pas un problème, mais c'est plutôt le conducteur. L'usage de ces conducteurs-là. Mais c'est là, peut-être, qu'on pourrait mettre beaucoup plus l'accent, et je crois que la mesure pourrait avoir un peu plus de succès, hein, de réalité, dans la vie des Kinois, si pas des Congolais.
Merci, Joachim Diana. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Des très bonnes mesures, comme le dit Innocent Kaboukala, dans la forme ainsi que les fonds, mais qui pourraient être butées contre un problème de faisabilité.
Oui, mais écoutez, moi je pense même pas que ce soit une mesure sur laquelle on devrait faire beaucoup de publicité, dans la mesure où il va de soi, dans tout le pays du monde, tout ce qui entre, même les légumes qui entrent dans un pays doivent être contrôlés s'ils sont... Mais en ce qui concerne les véhicules, moi je suis généralement, je suis contre ce qu'on appelle la censure, mais plutôt de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas ce qu'on dénote. En ce qui concerne les véhicules d'occasion, il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que 9 sur 10 véhicules qui circulent soient des véhicules d'occasion. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne sont pas en mesure d'acheter des voitures neuves. Or, quand vous allez dans d'autres pays, en Afrique du Sud, au Botswana, beaucoup de pays qui nous entourent, à la SADC, les gens ont la possibilité d'acheter un véhicule neuf à crédit. Mais chez nous, cette possibilité-là n'existe pas. Et c'est pour cela. Donc, les gens n'achètent pas de véhicules d'occasion par simple plaisir. Il ne faut pas que, généralement, le gouvernement, lorsqu'il se réunit, il calcule tout, il mesure le problème par rapport à leur propre revenu. Et ils peuvent se permettre d'acheter des véhicules neufs ou, je ne sais pas, secondes, mais qui auront été déclassés la même année, ou encore eux-mêmes aider le médecin, le CCI, pour acheter le véhicule avec leur caution, mais le commun du mortel. Donc on ne doit pas dire que les autres doivent seulement se promener, mais il faut créer les conditions pour que les Congolais soient à même d'acheter des véhicules neufs et à crédit. Voilà. Si cela n'est pas fait, si dès qu'on fera ça, et dès qu'il y aura de bus qui circulent comme jadis, je pense que ce qu'on voudrait dénoncer disparaîtra de lui-même.
Donald Moussema, je rappelle que vous êtes directeur de la radio communautaire Iriba FM qui émet depuis Bukavu au sud Kivu, et secrétaire provincial de l'UNPC dans cette province. Le gouvernement motive sa décision en disant que cette mesure vise notamment à rajeunir les parcs automobiles au Congo. Mais certaines personnes pensent que, comme l'ont dit les confrères, il y a des préalables qu'il faut accomplir, notamment revoir à la baisse les différentes taxes qu'on impose aux importateurs.
Justement,
c'est l'un des préalables.
D'accord, justement, je pense que la motivation du gouvernement n'est pas assez soutenue, parce que si vous descendez aujourd'hui dans la capitale Kinshasa ici, j'ai posé quelques questions aux habitants, tout le monde s'oppose. Donc on comprend qu'on fait quelque chose que le peuple ne veut pas. Ça, c'est déjà un fait. Donc personnellement, la mesure, je ne l'accepte pas au vu de cela, parce que on n'a pas proposé d'issue, on n'a pas proposé de solutions, on n'a pas proposé quelque chose à part ce qui a été dit. Et si par exemple on va dire le fait que par exemple les transports, c'est déjà un casse-tête dans la capitale Kinshasa. Est-ce qu'on a songé à tout ça? Les Kinois ont un problème de bouffe, de transport. Est-ce que c'est ça, c'est cette mesure-là qui va résoudre ce problème? Moi, je pense que c'est des bonnes idées, mais ce n'est pas à mettre en application pour le moment. Il faut plutôt rentrer dans les contextes actuels, les quotidiens, le réalisme quinois, qu'est-ce qu'il veut au stade actuel. Je pense que la mesure va même favoriser les entreprises qui existent ici déjà et qui vendent les véhicules neufs. Et ce sont ces entreprises là-bas, peut-être qui ont poussé ou qui pousseraient le Premier ministre à prendre cette mesure pour qu'ils puissent écouler leurs véhicules qui sont ici garés, je ne sais pas, dans des parcs et tout, mais la mesure n'est pas acceptée par la majorité des Kinois. Et par conséquent non plus, je ne la trouve pas opportune.
La mesure n'est pas opportune, Joaquin Diana.
Oui, c'est, le problème c'est que ce n'est pas que les Kinois doivent l'accepter ou pas. Un gouvernement qui n'agit que parce que il y a clameur générale, ce n'est pas un gouvernement responsable. Mais ce que je dis, c'est que le gouvernement doit savoir que les véhicules neufs coûtent les yeux de la tête. Et ils coûtent tellement les yeux de la tête qu'on ne peut pas les acheter, que les Congolais...
Oh! Mais les importateurs disent ceci, que si le gouvernement parvenait à revoir à la baisse toutes les taxes auxquelles ces importateurs sont soumis, il y a possibilité d'importer des véhicules en bon état.
Oui, tout à fait.
Parce que les grands problèmes, selon eux, c'est la douane congolaise qui est considérée comme étant la douane la plus chère au monde.
Oui, tout à fait. C'est là où le gouvernement qui a un budget essentiellement constitué des recettes, des taxes, ne doit pas chercher à se faire bonne conscience en croyant. Il a besoin d'un budget et il a besoin de recettes des douanes et de ce côté-là, il renforce, même il hausse et en même temps, il interdit ceux qui peuvent nous amener de la camelote pour nous permettre quand même de circuler. C'est pourquoi j'ai dit, au même moment qu'il peut revoir les taxes, et lui doit chercher d'autres moyens de renflouer son budget. À ce moment-là, c'est ça, c'est le dilemme pour lui. Mais alors, il faudra que ceux qui vendent les véhicules, même avec ces taxes-là, mais qu'ils introduisent la pratique qu'il y a dans le monde entier. On constate que même les véhicules montés ici coûtent plus cher qu'une voiture montée en Chine et qu'on transporte de Chine ici. Elle coûte moins cher encore qu'une voiture qui a été montée ici à Kinshasa. Donc il faut que le Premier ministre voit cela. Le vrai problème, c'est faciliter le transport des Kinois. Mais chercher à les réduire, c'est vraiment créer un problème. Pas les Kinois, mais tous les Congolais.
Innocent Kamoukala, si cette mesure est appliquée d'ici le 2 décembre, parce que c'est en fait ça le moratoire, ça pourrait avoir quoi comme retombée, à votre avis?
Il faut seulement éviter la tension. Ça ne sert à rien. Déjà, le gouvernement a beaucoup de problèmes, a du mal à convaincre sa propre population. Même si Diana ne voit pas qu'il faut une clameur générale pour qu'une mesure soit d'application, parce qu'en fait, le gouvernement, il travaille pour qui? Il travaille pour la population. Il faut que la population consente pour que on en arrive à une bonne application. Donc, ça veut dire que si ce moratoire-là arrivait à terme, comme on le dit, le 2 de cette année-ci, je pense que on pourrait assister à des contestations qui risquent de troubler la paix sociale et le gouvernement, je crois qu'il sera perdant.
Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa a été à la technique et Samuel Kachak à la réalisation sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi.